Sud Radio, l'œil de l'expert.
Non, c'est l'invité du jour aujourd'hui, Bruno Sanchez. Bonjour Bruno Sanchez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est un petit peu compliqué, vous êtes parti très tôt de chez vous, vous n'êtes pas arrivé,
ouais,
c'est du direct, c'est donc on va le faire quand même comme ça, on est déçus parce qu'on ne va pas pouvoir vous toucher, vous voir en vrai, ce qu'on aurait beaucoup aimé. Bah, vous pouvez faire demi-tour, hein, retournez vous coucher.
Ah bah non, je peux pas, je vais être sur Paris quoi qu'il arrive, mais c'est un enfer.
Bah oui, je sais.
Je sais.
On vous pardonne parce qu'on vous aime. Catherine et Liliane, évidemment, je te promets. Et puis, tous les jeudis, on vous retrouve dans HPI aux côtés de l'insupportable, mais qu'on aime beaucoup, Morgan Alvaro. ce rôle de flic timide qui vous va très, très bien. Ça vous a tout de suite plu vous imaginiez ce succès? Parce qu'on rappelle quand même, Gilles, hein, les audiences colossales. 9 millions de téléspectateurs.
Plus 2 millions, ouais. Ça fait presque 11 ouais. millions pour le premier épisode de la saison 2.
Ouais.
Et
ouais,
c'est la même chose. Hein. 9 millions de téléspectateurs, plus 2 millions en replay. C'est très rare. Hein, en règle générale, TF1 fait 3 millions à 4 millions sur.
Ouais. Vous
sur
aviez senti le potentiel de cette fiction?
Ce haut potentiel.
Oui, ce haut potentiel.
je l'ai senti. Non, personne ne s'y attendait en fait. On savait qu'on faisait une série de qualité, mais on peut jamais imaginer qu'on fasse un succès comme celui-ci, quoi.
Ouais, ce rôle, racontez-nous un petit peu comment vous l'avez appréhendé, ce flic un peu timide, envahi par Morgan Alvaro, joué par Audrey Fleurot.
Ouais, ça s'installe même chez lui.
Oui, ça s'installe même chez vous. Oui. Comment vous avez fait ce rôle de flic?
Je l'ai construit au fur et à mesure que l'on tournait aussi, parce que les relations qui se créaient entre les personnages se faisaient au fur et à mesure. Et puis, à la base, Gilles, il n'était pas décrit comme je le suis moi.
Mmh.
C'était quelqu'un de plus grand, de plus costaud, de plus bûcheron. Et donc, j'ai toujours imaginé que Gilles, c'était un espèce d'ours.
Mmh.
Et du coup, c'est dans son cœur, c'est un petit ourson, quoi. et c'est un peu comme ça que je le vois. Il est très gentil. Et ça peut être un flic qui travaille à la PJ, qui est confronté à des choses assez terribles, à des corps, à des meurtres et tout. Et puis dans la vie, il est un peu plus naïf, un peu plus maladroit.
Alors,
et encore plus au contact de Morgane. Morgane est là pour nous tester, quoi, pour nous mettre face à nous-mêmes et nous bouger un peu intérieurement, quoi.
Allez-y, Gilles.
Non, Valérie, je voulais faire vous écouter un petit extrait de la bande-annonce. Vous allez voir ce caractère, même si évidemment qu'on fait 10 millions maintenant, son caractère est très connu de ce HPI.
Donc vous êtes consultante?
Oui, je vous ai pas dit, je bosse avec les flics.
J'écoute.
Mais qu'est-ce que cette folle fait dans la police?
Non, il n'y a pas les mêmes en 38. On sent, tu vois pas que je bosse?
Morgane vient sur mes scènes de crime avec ses enfants. Elle est indisciplinée.
Vas-y, Derrick, tire dans la serrure.
Respecte rien, mais c'est l'enquêtrice la plus brillante avec qui j'ai jamais travaillé.
Ça t'embouche un coin, hein?
Ça va?
Non, ça va pas!
Je suis pas un assassin.
Oh, le gros mytho, ouais.
Elle a un grave problème psychologique, hein?
Voiture habituelle, si vous pouviez éviter.
Quel show habituel, je sais même pas de quoi vous parlez.
HPI, saison 2 inédite.
Et voilà, saison 2 inédite, ça va être encore un succès ce soir. Est-ce que ça a été compliqué de quitter un duo? Parce que c'est vrai que Alex Lutz a eu une notoriété un petit peu en dehors de votre duo. Est-ce que c'est compliqué? Parce que Omar et Fred Testo a eu le même problème avec Omar quand Omar Sy a commencé
marcher le duo,
dans le duo. Est-ce que c'est compliqué d'aller se vendre autrement?
Non, je sais pas. Non, je pense pas trop à ça. Non, je sais pas, moi je suis un peu le chemin qui est le mien et je réfléchis pas, j'ai pas trop de stratégie de carrière ou de plan. HPI ouais. s'est présenté après Catherine et Liliane, et puis, voilà, on suit le chemin, on marche, quoi.
Oui,
c'est une randonnée.
Oui, sur le. Alors, avec Catherine et Liliane, on ne vous reconnaissait pas forcément dans la rue. Depuis, certainement, Je te promets et HPI, ça a peut-être changé votre rapport à la notoriété. Est-ce que les gens vous reconnaissent plus dans la rue?
Non, ils me reconnaissaient beaucoup, Catherine et Liliane dans la rue, ouais.
Ah
et
bon
là, on me reconnaît plus comme Catherine et Liliane, mais ouais. Comme d'autres projets. Quoi.
Comme d'autres projets.
Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jubilé, Valérie, de la Reine. J'en ai parlé dans mon zapping. Alors, vous aviez fait un sketch sur le précédent jubilé sur l'anniversaire de la Reine de Catherine et Liliane. Et je l'ai retrouvé, Bruno. Écoutez.
Ah ouais.
Apparemment, d'après Kate Middleton, c'est très compliqué de trouver un présent pour l'anniversaire de la Reine. Ben oui. En même temps, un présent pour une femme de 91 ans, c'est pas évident.
Un futur, surtout. Pas évident.
Oh non. Mauvaise.
Là, je suis mal.
Mauvaise.
Oui.
Voilà. C'était un extrait de Catherine et Liliane.
Catherine et Liliane. Pour revenir à HPI, on sent, il y a eu vraiment la vogue des polars durs. Là, on est dans du polar, mais beaucoup plus humoristique. Et même le flic, il est vachement plus cool que tous les flics qu'on a pu voir un peu buriner.
Parce que je crois que c'est plus la réalité que ces flics burinés qu'on a l'habitude de voir.
Ouais.
Parce que nous, on a un consultant, Franck Martin, qui est un grand policier de la judiciaire dans les Hauts-de-France, et il n'est pas du tout buriné et alcoolique, et il n'a pas du tout ses vestes noires, et il ne fume pas un paquet de clopes. Au contraire, c'est quelqu'un de très rigolo, de très jovial, et je pense qu'ils ont besoin de l'aide parce qu'ils sont tellement confrontés à des cas graves, à des malheurs, que s'ils n'ont pas de l'humour dans la vie et de la dérision, je pense qu'ils ne tiendraient pas, en fait.
Et c'est pas trop dur de tourner dans les Hauts-de-France? D'habitude, on tourne dans le sud de la France, on tourne
attention,
à Sète ou à Montpellier. Non, mais je vous taquine.
Attention,
mais vous tournez à Lille.
Non, mais Lille, c'est magnifique, déjà, c'est une ville magnifique. Et c'est pas difficile. Alors, oui, il ne fait pas forcément... Alors déjà, s'il y a du soleil, c'est pas vrai, hein, c'est le truc tout le temps. Et les gens sont très très accueillants, sont très gentils, on y mange très bien. Pour ceux qui aiment la bière, on est ravis d'y être. Il y a beaucoup... c'est génial d'être là-bas. Moi, j'adore.
Ouais. Il y aura une saison supplémentaire à HPI, de ce que vous savez, si vous êtes dans les secrets.
Oui, il y en aura une, mais alors je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais bon. Voilà.
Audrey Fleurot l'a dit. Audrey Fleurot l'a dit.
Voilà, donc, mais ça cartonne.
Ah, oui, elle l'a dit. Ouais.
Mais par contre, elle n'a pas dit si vous seriez dedans.
Ah, ben moi-même, je ne sais pas. Ouais. Mais si, a priori, si, on y est tous. Hein.
Ouais. Est-ce qu'elle est rigolote dans la vie, Audrey Fleurot?
Elle est très drôle dans la vie, ouais. Elle est très sarcastique, elle est très... Elle a un humour très anglais, je trouve, Audrey.
Un sourire.
Ouais, très, très.
Est-ce que j'imagine...
Elle est géniale.
J'imagine que vous sortez après les tournages ou pas? Une fois que le tournage est fini à Lille, vous faites les brasseries?
Non, Audrey, elle est plutôt... Audrey, elle a tellement de textes, tellement de travail que si elle sort dans la semaine, elle est flinguée pour le reste du tournage. Donc ça lui arrive rarement. Nous autres, ça nous arrive plus souvent, oui.
Et alors, est-ce que vous arrêtez Je te promets, pourquoi cette décision? C'est des histoires de calendrier ou vous aviez plus envie de continuer la série?
Mais non, pas du tout, mais ça a été vraiment... et c'est un gros malentendu, ce truc.
Ah bon?
Expliquez-vous. Je te promets... Pardon? Non, oui. Mais en fait, c'est que... C'est parce qu'une journaliste a déformé des dires que j'ai eus, en fait.
Ah bon?
Donc vous continuez, te promets?
Oui, je continue. Ouais. La saison 3 qui va se préparer, j'en ferai, oui. Oui.
Ah, bah c'est un scoop que vous nous donnez sur Sud Radio. Vous avez vu quand même que tous les journaux
titraient
votre départ.
Mais parce que c'est une information qui a fuité, qui n'est pas bonne, en fait.
Bah, écoutez, on est ravis de le savoir et de le révéler à nos auditeurs. Donc vous serez dans la prochaine saison de Je te promets. Comment ça se passe? C'est des tournages assez intenses pour le coup quand on est sur du quotidien comme ça. C'est différent du tournage d'une série comme HPI.
Non, c'est du même acabit. Ouais. Après, HPI, moi, je suis plus présent dans HPI que dans Je te promets. Donc, Je te promets, ça se tourne à La Rochelle, à Rochefort. C'est plutôt chouette. On a l'océan pas loin.
Oui, donc c'est
intense aussi parce que c'est des formats télé. Donc, il y a un espace de rendement à avoir qu'on doit respecter. Donc, il y a pas mal de travail en amont pour être efficace. Mais c'est toujours chouette. Hein.
Votre papa, parce que vous êtes d'origine portugaise, il est cofondateur de la radio Radio Alpha, ce que les Franciliens connaissent bien. Hein, quand on va à l'aéroport Charles de Gaulle, on ne peut pas louper le panneau de Radio Alpha. Pourquoi ça vous aurait tenté la radio? Vous avez fait de la radio à l'époque, quand votre papa dirigeait une radio?
J'avais fait un peu, je faisais partie d'une émission du matin, où je faisais des petites chroniques cinoches. Et artistique, mais j'adore la radio, je trouve que c'est un média fantastique. J'ai l'impression que c'est le média qui restera toujours quoi qu'il arrive.
Ouais, et si on vous proposait une matinale ou une émission comme ça, ça vous tenterait?
J'aurais peur, mais je crois que j'irais les yeux fermés. Ouais,
ouais.
j'aimerais beaucoup. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est un format qui est riche et libre.
Alors, donc...
Il y a un truc qui est très plaisant derrière un micro.
Notre question du jour, Bruno, on a demandé à nos auditeurs sur le compte Twitter s'ils aimeraient revoir Catherine et Liliane. Ça vous amuserait de temps en temps de vous reformer ou la page est tournée?
La page est tournée. Après, le livre, il n'est pas fermé. Donc, donc là, pour l'instant, il n'y a rien. On a pas... Si un jour, on a une bonne idée et que ça nous amuse... vous savez, elles sont toujours en nous. Hein, c'est des clowns qui sont dans notre ADN aujourd'hui, donc là il n'y a rien de prévu, mais on ne sait jamais.
Vous êtes copain toujours avec Alex Lutz, vous voyez, vous êtes amis dans la vie?
Ah oui, toujours, oui.
Vous avez tourné beaucoup ensemble.
On était amis avant de travailler ensemble, vraiment très longtemps avant. Donc,
et vous êtes réconcilié avec les équipes du Petit Journal qui vous en ont très voulu de ne pas les avoir suivis sur TMC. À un moment, Yann Barthès, vous avez trouvé pas très sympa de ne pas les suivre et de rester sur Canal. Est-ce que...
Non, moi, j'ai jamais eu de grief envers eux. J'ai toujours eu beaucoup de respect, beaucoup de gratitude. Ils nous ont beaucoup aidés. Non, moi, j'ai toujours un amour pour eux. De celui du premier jour. Donc,
c'est réciproque, vous pensez?
Je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, mais j'espère qu'on est resté quand même de manière positive dans leur cœur.
Question, on va dire, bateau et très ouverte, l'humour à la télé, c'est plus compliqué aujourd'hui? Les choses ont changé, on voit qu'il n'y a plus de guignol, il n'y a plus cet esprit un peu satirique, un petit peu décalé, qu'il pouvait y avoir aussi dans Liliane et Catherine et Liliane.
Ouais, après c'est dommage. Ouais. Après il y a toujours des choses sur Canal+, il y a des séries beaucoup, il y a le Flambeau qui est super, il y a Alex Ramirez qui fait une plastique aussi qui est super. Non, il y a des choses. Après, c'est sûr qu'il n'y a plus d'émissions dans lesquelles elles pourraient exister peut-être plus ou mieux. Moi, je ne sais pas. Ça a évolué. Maintenant, il y a des médias différents.
Oui.
J'ai l'impression qu'on s'y retrouve aussi avec Instagram. Après, c'est sûr qu'il y a une petite nostalgie de ce Canal+ qu'on a pu connaître. Mais après, c'est subjectif.
Ouais. Et on pourrait vous voir sur scène. Alors, vous pourriez faire
du stand-up. Il va être au théâtre dans son actualité, c'est ça, hein?
En stand-up, je pense que je ferai jamais de stand-up.
Non, c'était ma question. Un seul en scène, non.
Un seul en scène, oui, non. Peut-être, ouais. Mais pas de
stand-up.
Pas quelque chose centré sur mon parcours personnel ou quoi. Mais du théâtre, oui. Là, en ce moment, on joue aux capsules Le Pic parce qu'on devait le faire il y a 2 ans. Et puis il y a eu le Covid et ça a été reporté avec une bande d'amis. Et puis en 2023, il y aura du théâtre, très certainement.
On finit avec un dernier Catherine et Liliane avant de lui dire au revoir.
Allez, on se fait plaisir.
Allez.
Selon une étude, les hommes préfèrent le bon essai. Ça m'étonne pas.
Ah, oui.
Oui. Et toi, ton homme, il préfère quoi?
Alors, le bon RM, indéniablement.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il préfère la disco à Ménichon, je pense.
Vu la ferveur dont il m'honore, j'en fais cette conclusion, quoi. C'est bien la musique.
C'est bien la musique.
Ça marche toujours, hein. Ça vous fait rire,
ouais,
aussi.
Ça fait rire, ouais. Parce que moi, je les redécouvre. Il y a des trucs que j'ai pas vraiment oublié, donc oui, c'est voilà. Toujours rire.
On a un auditeur qui dit « Opération Portugal, j'ai pissé de rire, Bruno était topissime ». Voilà, voilà. Non, c'est voilà. Vous évoquez des souvenirs pour pas mal de nos auditeurs. Donc ce soir, cool. On vous retrouve dans HPI, donc ouais. Aux côtés d'Audrey Fleurot, de Mehdi Nebou, de Marie de Nardo. On va pas citer tout le monde, mais il y a plein de monde. Et puis c'est un carton à chaque fois. Ouais, merci. Bah, bonne route, merci, hein, Bruno Sanchez.
C'est un enfer. Je suis bloqué. Vous imaginez, ça fait 3 heures que je suis dans la voiture.
Vous êtes toujours bloqué?
Toujours bloqué.
Ah ouais. Bon,
incroyable.
Allez, bonne journée à vous, Bruno. Et puis à très bientôt. Au revoir. Et on se retrouve. Nous, on se retrouve tout de suite pour parler d'un document, d'une enquête remarquable et incroyable, Le Maître et l'Assassin. C'est à suivre dans un instant.
Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cucius.
Ce soir dans le Loft, je vous donne rendez-vous dès 20h avec la grande Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Tu nous parles de ton nouveau single qui s'appelle comment ?
La mer, voilà, vous aurez un avant-goût des vacances avec ce titre-là.
Mais exactement, je vais te présenter Éric Berchaud. Bonjour Éric.
Bonjour.
Tu as accompagné Charles Aznavour pendant de longues années.
Oh, très longues années, oui. Oui. Oui.
Tu as vécu plein de choses avec lui à ses côtés et tu l'as toujours vu de dos, c'est d'ailleurs le titre de ton ouvrage au Cherche-Midi. On se retrouve tout à l'heure à 20h.
À tout à l'heure.
Dans le Loft sur Sud Radio, évidemment.
Le Loft Musique Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Paul Delaf, voici exactement 10 ans, il a enregistré La Tristitude, une chanson d'humour dont les paroles ont évolué en fonction de l'actualité. Mais il a écrit beaucoup d'autres couplets, ainsi que des spectacles qu'il propose actuellement dans toute la France. Paul Delaf est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio.
Sud Radio, les clés d'une vie, 21h-22h, Jacques Pessis. Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'œil de l'expert ce matin, c'est Sophie Bonnet. Bonjour Sophie Bonnet, vous Bonjour. Êtes journaliste d'investigation. Je vous avais reçu il y a quelques temps pour le livre Salutations révolutionnaires paru chez Grasset. C'était le récit de vos 4 années de parloir avec le terroriste Carlos. Vous publiez chez Robert Laffont une enquête dont j'ai déjà parlé ici, une enquête passionnante, fascinante, Le Maître et l'Assassin. C'est paru, donc je l'ai dit, aux éditions Robert Laffont. Et Le Maître, c'est cet avocat qui était un avocat, un ténor du barreau, Maître Metzner, et de ce gigolo, escroc, empoisonneur, Alexandre Despalière, un jeune homme à la beauté du diable qui a escroqué, vraisemblablement assassiné, mais qui n'a jamais été puni. Le livre est formidable parce que vous vous mettez en scène, vous racontez cette enquête. Ça a été... moi, j'ai eu du mal à sortir du livre, pour tout vous dire. J'ai eu du mal quand je l'ai refermé à passer à autre chose. Donc pour vous, ça a été une enquête plus difficile que les autres ?
Ah oui, ça a été, j'allais dire, presque un chemin de croix. Pendant 5 ans, je me suis couchée avec l'idée d'Alexandre Despalière le soir et relevée avec lui le matin. C'est devenu une obsession. En fait, sa vie était émaillée de morts suspectes. Et donc, mon obsession, ça a été de savoir s'il avait tué ces gens-là et s'il avait tué Olivier Metzner. Parce qu'ils ont été très, très proches.
Absolument, très, très proches. Donc, il y a des choses... vous avez interviewé un nombre de gens incroyables. Oui. vous racontez que les portes étaient fermées. Oui. Et quand on suit l'enquête, on voit que vous avez réussi à retrouver des petits amis de l'époque. Peut-être raconter qui était Alexandre Despalière, ce jeune homme avec un culot monstre, mythomane, affabulateur, pervers.
C'était quelqu'un de très beau, en fait.
Ouais, ouais.
Et donc, dès l'enfance, il a eu, ça a été beaucoup construit par sa famille, par sa mère notamment, la certitude absolue, une espèce de conviction folle qu'il allait devenir une star. C'était quelque chose qui était convenu avec le destin. Il allait devenir acteur, ouais. chanteur.
Enfin, voilà.
Ouais. Et donc, il s'est complètement construit là-dedans. Et puis, finalement, quand il a appris à l'âge de 15-16 ans qu'il était contaminé par le sida et donc qu'il allait mourir, c'était quelque chose d'invraisemblable pour lui, le fait que le destin l'ait choisi lui et pas les minable à côté, comme il disait. Et donc, à partir de là, il a complètement vrillé, quoi. Et puis, il est rentré dans une espèce de longue série d'escroqueries, d'empoisonnement. Enfin, c'est quelqu'un qui a voulu tutoyer la gloire, parce qu'il estimait que ça lui était dû, parce qu'il était magnifique. Et donc, il a fréquenté tout le showbiz. Enfin, voilà, beaucoup de...
Mais Elton John qui a craqué pour lui.
Absolument. Il a...
Vous l'avez rencontré avant qu'il ne meure. Il est décédé avant d'avoir pu être jugé. Oui. Vous l'avez rencontré. Moi, j'ai eu le sentiment que vous aviez été fasciné tout de même par lui.
Les premières fois où je le vois, donc il m'invite, on se retrouve dans un palace. Et c'est un type qui est déjà suspecté d'avoir tué son mari, qui était un magnat vraiment...
De la Warner. C'était un directeur artistique australien de la maison de musique Warner. Qui réussit à se faire épouser.
Absolument. Il monte tout un stratagème en lui faisant croire. C'est un truc invraisemblable. Et donc, finalement, Peter Aikin décède, en fait. On apprendra plus tard qu'il a été empoisonné au paracétamol. Et donc, en fait, Alexandre hérite d'une fortune de 15 millions. Et donc, finalement, les choses vont se gâter assez rapidement quand même. Mais il ne sera jamais jugé. Il fera très, très peu de prison. Et puis, il y a d'autres morts suspectes pour lesquelles il ne sera jamais ennuyé. Donc, moi, je le rencontre. Il vient de sortir de prison. Et quand les premières fois que je le vois, c'est un type absolument délicieux, d'une beauté folle, très cultivée.
Qui essaye de vous séduire aussi. Hein.
Absolument. Et je me dis, ce type est innocent. Les premières fois, vraiment, je me dis, il ne ferait pas de mal à une mouche. Donc, c'était quelqu'un avec un côté comme ça complètement solaire et une force de persuasion incroyable. Et donc, de toute façon, il a escroqué, empoisonné des dizaines et des dizaines de gens.
Vraisemblablement tué ses parents aussi.
Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'a jamais été jugé là-dessus. Mais pour moi, il a vraiment empoisonné ses parents, ses grand-mères, les deux grand-mères, son mari. Et puis, moi, j'ai retrouvé des tas de gens qui ont été empoisonnés. Alors, c'était pas pour les tuer, c'était pour récupérer de l'argent.
Les rendre dépendants. Il y a beaucoup de choses dans le livre sur la noirceur de l'âme humaine, se dire qu'on peut aller aussi loin, tuer ses parents, tuer ses parents, tuer des animaux, bon, ça, c'est encore autre chose. Et puis, la manipulation, la relation avec sa mère qui est assez incroyable aussi, puisque la mère accepte que ses amants viennent à la maison.
Et je pense que la mère, en fait, elle est tout à fait au courant que qu'Alexandre est un assassin. Mais Metzner, Metzner le sait aussi.
Metzner, la rencontre avec Metzner, elle est incroyable aussi. C'est-à-dire que Metzner est l'avocat d'un homme qui porte plainte contre Despalières pour empoisonnement.
Et Metzner va aider Despalières à se sortir de cette première histoire d'empoisonnement. Donc ça, c'est une affaire qui se passe en 92. La justice n'a jamais récupéré ce dossier. Et en fait, ça va être vraiment le brouillon de l'assassinat d'Aikin 20 ans plus tard. Mais tout est là. Déjà, il pile des médicaments, il lui fait avaler. Enfin voilà, c'est quelque chose d'absolument sordide. Et Metzner va l'aider à se sortir de là. Et ils vont devenir, à partir de ce moment-là, très intimes. Et Metzner va faire vivre Despalières.
Il va lui donner de l'argent jusqu'au moment où on va le découvrir au moment de... Enfin, en lisant le livre, mais où il arrête. Et il dit qu'il n'y a jamais eu de relation sexuelle entre eux. Ça paraît...
En fait, lui, c'était ce qu'il disait, parce qu'il avait honte de devoir coucher avec des vieux monsieur qu'il considérait comme laids. Ouais. Donc, sa ligne de défense, c'était « je suis juste là pour leur tenir compagnie, je n'ai jamais couché... »
C'est ce qu'il vous dit.
Ni avec Metzner, ni avec Peter Aikin, etc. C'est quelqu'un qui monnaie ses charmes, sans aucun doute. Il a vécu de ça pendant des années, c'était sa principale source de revenus.
Ce qui est fou, c'est que les gens, des années après, ont eu peur de vous parler de ces victimes, de ses proches. Les avocats ont cloisonné aussi. En ce qui concerne Metzner, on va en reparler, parce que lui aussi, c'est une personnalité, c'est un personnage incroyable dans ce que vous racontez. Partouzeur, alcoolique, drogué, très malheureux, très malheureux, brillant avocat.
Mais plus touchant. Enfin, il a un côté très touchant. Puis c'était quelqu'un de très doué. Les victimes, effectivement, il y en a beaucoup qui ont honte d'expliquer qu'elles se...
Avaient peur aussi. Il y a la peur chez les gens que vous avez interrogés, sur des gens qui vous disent quand il est mort, non, c'est pas possible, il n'est pas mort, il fait semblant.
La première chose qu'on me dit, parce qu'en fait je suis cette histoire jusqu'au bout, et donc je suis là quand à l'hôpital, et donc quand je sors de l'hôpital et que je préviens certaines de ces victimes, la première chose qu'on me dit, c'est je ne te crois pas, il n'est pas mort, et donc c'est quelqu'un qui a gardé une emprise comme ça complètement folle, mais des années après, je veux dire, des gens qu'il a pu empoisonner il y a 20 ans, encore aujourd'hui, ils ont peur. Alors maintenant, il est décédé, mais ils avaient peur qu'Alexandre sonne à leur porte. Quoi. Mmh. Et donc, de toute façon, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce fiasco judiciaire. Mais l'emprise de ce type et sa force de persuasion...
Il s'est inventé des histoires abracadabrantesques. Il était le fils de Liz Taylor.
Oui. Le fils de Roger Moore. Le chanteur du groupe AA.
Absolument. Il a fait croire à un de ses amants qu'il était le chanteur du groupe AA.
Mais il était très doué.
Parce qu'en plus, il recevait chez lui, dans cette maison un peu minable. Ouais. Donc les gens comprenaient pas quand il dit « je suis l'héritier d'une immense fortune ». Alors il racontait que Liz Taylor voulait le cacher. Quand on lit l'histoire, on se dit « mais on l'inventerait dans un scénario, ce serait pas possible ».
Et en même temps, voyez, il arrivait à présenter Elton John. Il a fréquenté le tout Paris. Il connaissait toute la jet set. Des ministres, des chanteurs, des présentateurs
de télé.
Des gens très connus. Donc en fait, il se servait aussi de ça pour faire illusion. Et
pour
ça marchait très bien.
Tout ça.
Et puis il y avait aussi des gens qui savaient qu'il mentait, comme Metzner, et puis qui s'en arrangeaient très bien. Ouais. Donc c'était une espèce de... Mais effectivement, c'est un personnage de fiction.
La vie de Metzner que vous avez retracée, qui était quelqu'un de très secret, qui avait finalement assez peu d'amis. On verra, il faut lire le livre jusqu'au bout, jusqu'à la préparation de sa mort. Donc là, ça laisse assez peu de doutes sur le fait qu'il s'est vraiment... il faut lire le livre, parce que vous donnez des éléments. Mais c'est vrai que c'est un personnage aussi, Maître Metzner. Pensiez, quand vous avez commencé à enquêter, que c'était aussi... que c'était une personnalité aussi épaisse, aussi dense...
Et je ne pensais pas que ce serait si difficile, sinon je ne sais pas si j'aurais commencé. Ouais. Mais enquêter sur Metzner, ça a été très très difficile, et les premières pistes que j'ai pu trouver des gens qui vraiment me parlaient de lui, c'était par le monde de la nuit, les gigolos, les dealers, etc. C'est ces gens-là qui m'ont vraiment commencé... Enfin, voilà, qui m'ont aiguillé, qui m'ont donné des pistes, et j'ai pu commencer à tirer des fils, quoi.
Quand on enquête comme ça, c'est un boulot d'opiniâtreté. Oui. C'est revenir à la charge sans arrêt.
C'est très, très décourageant. Ouais. Et puis, c'est écrit comme un thriller, mais tout est vrai. Donc, je ne peux rien inventer. Donc, si je n'ai pas les infos, je ne peux pas... Donc, en fait, pendant des années, j'avais peur de ne pas parvenir à raconter cette histoire, de ne pas parvenir à aller au bout. C'est devenu complètement obsessionnel.
Je le sentais à mes trousses. J'écrivais sans relâche, régulièrement. Je faisais lire mes chapitres et quelques volontaires autour de moi, je récoltais la plupart du temps des moues dubitatives, mon récit patinait, manquait de substance. Alors, vous avez aussi été obligé vous avez fait un travail d'auteur, vous avez été obligé d'imaginer certaines scènes puisque vous n'y étiez pas et vous les avez restituées.
Je pars sur ce qu'on m'a dit. J'ai imaginé très très peu de choses. J'ai vraiment pris ce qu'on m'avait raconté. Alors, effectivement, les scènes de mort, etc., j'y suis pas, mais il y avait des gens qui était. Donc j'ai vraiment croisé tout ce que je pouvais.
Et sa famille vous a parlé à Maître Metzner ou pas du tout?
Alors certains membres de la famille m'ont parlé. Ouais.
Mais alors vous dites qu'il y a effectivement beaucoup de promesses d'anonymat de votre part, sinon les gens ne parlaient pas. Stéphane demande, ce serait possible d'adapter au cinéma? Oui, bien
sûr.
Ce serait, évidemment que c'est un scénario absolument incroyable. Ce sont deux personnages, c'est une histoire absolument dingue. Et,
on ne peut pas l'inventer.
On peut pas du tout l'inventer. Vous avez été à son chevet. Oui. Parce qu'on sent l'emprise aussi sur vous. Encore une fois, je vous ai posé la question sur la fascination. Mais vous y allez, vous y retournez parce que vous êtes appelé par son nouveau conjoint aussi. Et vous y allez, mais un peu malgré vous. Mais quand même, vous allez là-bas, vous le voyez sur son lit de mort, presque
c'est compliqué
moribond.
C'est compliqué parce que c'est une histoire dans laquelle je me suis investie totalement. Je ne peux... de toute façon, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça... Vous finissez par connaître les gens, par vous attacher à certaines personnes d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou non. Et effectivement, j'ai fini par bien connaître son nouveau conjoint. Donc il y a des tas de liens compliqués qui se sont créés. C'est compliqué.
Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Parce qu'il en a perdu beaucoup. Il a été obligé d'en rendre. Quand vous le rencontrez, il habite au Meurice, c'est ça?
Alors, quand je le rencontre, il me fait croire qu'il a beaucoup d'argent. Les 15 millions, il a dû les rendre et on lui a donné 600 000 euros.
C'est ça.
Il y a eu un accord avec la famille de Peter Aikin et ces 600 000 euros ont été débloqués. Ont été bloqués par la justice. Et là, en fait, ils vont probablement être débloqués parce que, comme il n'a pas été reconnu coupable...
Donc, c'est son mari qui va en hériter, a priori.
Je ne sais pas, mais en tout cas, donc c'est quand même toute l'ironie de... Enfin, toute l'ironie, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un peu la tragédie de la justice dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 juges, l'affaire n'a jamais été jugée, les victimes ne sont jamais reconnues, mais l'argent va retourner.
Stéphane nous dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a jamais été pris, qu'il ne s'est jamais fait prendre, l'incompétence des enquêteurs? C'est, s'il faut lire le livre pour le comprendre, Stéphane, il est machiavélique.
Oui,
il est
moi,
très doué,
oui,
il est machiavélique. Ouais. Il empoisonnait des gens, il le faisait en plus en mettant ses victimes sous emprise, oui. Qui ne se rendaient pas forcément
il
compte.
Il estimait qu'il était obligé, en fait, parce que puisque la vie ne lui avait pas accordé le destin qui était convenu, la gloire, le pouvoir, de toute façon, il fallait qu'il récupère de l'argent et puis...
Tout était bon. Il avait des proies parfois un peu faibles. C'est vrai que c'est plus étonnant dans le cas de Maître Metzner et cette...
Alors, le premier producteur de cinéma, c'est pas quelqu'un de faible.
Pareil,
enfin,
il
y a vraiment des gens. Mais à l'époque où je le rencontre, effectivement, il me fait croire qu'il habite au Meurice et il habite dans une espèce
de chambre d'hôtel un peu pourrie.
Donc non, c'est quelqu'un qui fait illusion et ça dure assez longtemps, généralement.
Il faut lire absolument ce livre, Le Maître et l'Assassin, de Sophie Bonnet chez Robert Laffont. Je ne l'ai pas lâché, je l'ai lu, ça fait quand même près de 500 pages. C'est plus de 500 pages. C'est une enquête, encore une fois, remarquable. Et ses relations, tout est formidable. La relation de Despalières avec sa mère, la relation qu'il a avec les puissants, l'histoire de Maître Metzner. C'est un livre, encore une fois, alors j'aime pas du tout cette expression dont on ne sort pas indemne, mais vraiment on n'en sort pas indemne parce qu'on voit que l'âme humaine peut être assez terrible. Merci beaucoup Sophie Bonnet,
merci à vous.
On se retrouve nous dans un petit instant pour commenter l'actualité.